Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Tu vois la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix.
Rencontre exclusive avec Emine Gosdesevim à New York début janvier 2017. Elle nous parle de son travail photographique autour des printemps arabes et revient sur les récents événements en Turquie. Son travail documentaire sensible est un témoignage singulier d'un monde qui change. À découvrir absolument sur le site www.eminegosdesevim.com.
Je m'appelle Emine Gosdesevim. J'étais née à Istanbul. J'habite à New York. J'essaie de raconter des histoires visuelles.
Donc tu es une photographe?
Oui, j'ai un peu de problème d'utiliser des titres. Parce que je trouve qu'en fait, c'est le travail qui me dit la forme. Par exemple, si je vois une histoire qui serait beaucoup mieux racontée dans la photographie ou avec la photographie, oui, je veux faire un projet sur la photographie. Mais si peut-être ça va être très bien un poème, alors ça doit être un poème. Donc je pense que je ne peux pas décider ce que je suis. C'est le projet qui décide ce qui sont.
Tu es d'origine turque et afghane. Tu rentres de Turquie. Est-ce que tu peux nous parler de la situation actuelle qui est très difficile?
Ouais.
Ton impression, toi?
Oui, en ce moment-ci... J'espère qu'on n'est pas à l'aube d'une guerre civile totale. Mais si on est en paix, c'est un peu difficile de dire qu'on est en paix aussi parce qu'il y a des attentats tout le temps. Donc j'ai juste passé 3 mois là-bas. Et particulièrement le dernier mois, il y avait des attentats chaque semaine. Chaque semaine. Et ça fait quelque chose avec notre psychologie, quoi. Donc... En ce moment-ci, je sais plus, en fait, c'est quoi la raison pourquoi on doit vivre comme ça. Parce qu'avant, par exemple, pendant les manifs de Gezi, il y avait, l'administration, en ce moment-ci, le régime, peut-être c'était l'ennemi pour quelques gens qui faisaient les manifestations. Mais même après 2 premiers jours des manifs de Gezi, ça changeait. En fait, c'est pour ça que je pense que les manifestations de Gezi ont réussi rien. Parce que c'était... La Turquie a une histoire qui n'a pas résolu. C'est le problème. On a des problèmes d'un passé qui n'est pas très loin de nous. C'était un pays qui a commencé avec une imposition depuis le début. C'est le problème. Et chaque fois, il y a... Je ne sais pas comment on peut dire en français, mais il y a toujours les gens qui sont pour quelque chose... Et les gens qui sont contre les gens qui sont pour quelque chose. Donc c'est toujours une opposition, c'est pas un dialogue. Et je ne sais pas si ça peut continuer comme ça. J'ai peur qu'avec ce qui se passe dans la région, totalement, dans le Moyen-Orient, et comme le pays, l'État turc était très très dans la Syrie, en Irak, tout ça. Donc c'est un peu difficile à dire si en fait la Turquie ou la région va rester comme on connaissait depuis des années. Ça peut être que la guerre contre les, on dit les militants kurdes, mais il y a un mouvement là-bas aussi, ce qui se fait passer avec la population kurde en Turquie, je ne sais pas. Ou ce qui se fait passer avec les Kurdes dans les régions, on ne sait pas. Et j'ai peur aussi pour les gens, comme moi peut-être, qui veulent que vivre dans la paix en Turquie, mais ils ne sont pas religieux peut-être, ils ne croient pas... dans un mode plus oriental peut-être, mais ils veulent être comme des gens à l'Europe. Donc je pense qu'on voit en Turquie vraiment la division qu'on voit dans le monde, c'est-à-dire les gens qui veulent vivre avec la liberté. Il y a les gens qui veulent vivre dans une autre façon de liberté peut-être, mais qui est contre la liberté des autres. Voilà, donc c'est un peu inquiétant.
Tu viens de finir un travail photographique, notamment autour de ce qui s'est passé, des événements autour du parc de Gezi. Est-ce que tu peux expliquer mieux ce que c'était ce mouvement de protection du parc de Gezi?
Ouais. Comme d'abord, on doit parler un peu de l'histoire de la Turquie. Donc, c'est pas un pays, par exemple, comme la France, où il y a beaucoup de manifestations. Il n'y a pas une culture de manifester, en fait. Donc, être dans un protest, être dans les rues, c'est pas normal, d'abord. Et donc, quand il y avait ce problème d'un parc qu'ils ont voulu de changer pour un shopping center, et c'est juste au centre de la ville, c'est au centre de Taksim, c'est la vie de la ville. C'était d'abord des gens qui étaient intéressés à la nature, vraiment des hippies de la Turquie, qui étaient à l'université et qui ont voulu seulement protéger ces arbres. Parce qu'en même temps, il y avait beaucoup de projets, un troisième pont comme le Bosphorus, qui ont fini maintenant, qui changeait la nature aussi. Il y avait beaucoup de constructions. Et donc, ça, c'était le dernier moment où ils ont dit, mais on va faire quelque chose. Et ils dormaient dans le parc. Peut-être c'était centaines de gens, pas beaucoup. Et c'était comme ça que, comme j'ai vu sur Facebook, il y avait des gens qui ne sortaient pas de parc. J'ai voulu voir ça. J'ai voulu voir c'était qui, en fait, qui faisait ça. Et j'ai pensé que c'était une génération vraiment qui n'a pas connu l'histoire qui est venue avant parce qu'on a peur de la sécurité, de l'État, bien sûr. Parce que ça peut être très, très violent. Moi, même si que je suis un témoin aux manifestations, j'ai peur de la violence qui peut commencer tout rapidement. On ne sait jamais qui est qui, ce qui se passe. Mais c'était que des gens à l'université, très gentils, très innocents, tout ça. C'était les deux premiers soirs, c'était comme ça. Et chaque soir, la police viendrait et ils brûlaient les tentes, tout ça. Et donc, c'est pour ça, en fait, que cette petite manifestation est devenue un grand truc qui était partout en Turquie, sauf une ville. Donc, il y avait des manifestations qui ont commencé après Gezi, avec Gezi, partout en Turquie. Mais à la fin, comme il y a beaucoup de divisions, il y avait des autres groupes qui ont fait partie de ça et c'est devenu trop violent, tout rapidement, dans juste plus ou moins 3 semaines. Et c'était fini. C'était totalement crashed. Et je pense qu'avec ça, un espoir d'une génération jeune était écrasé aussi. Mais moi, je trouve que le problème, en fait, c'est entre nous, dedans de nous. Parce que vous pouvez voir la violence, même dans les membres d'une famille. Donc si la violence est déjà intégrée comme ça dans la vie, c'est vraiment difficile de changer cette culture. Et ça va prendre l'éducation, oui, les apps aussi, mais il y a beaucoup de travaux qu'on doit faire avant qu'on peut trouver une résolution pour notre vie. Moi, je suis totalement d'accord que ce n'était pas qu'un parc qui était un problème, parce qu'il y a des autres, il y avait des lois qui changeaient sur l'alcool, sur les choix des femmes avec les bébés, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de trucs qui viendraient ensemble, qui devenaient un problème, parce que ça changeait la vie d'une partie de la population. Donc, ça, c'était Gezi. Et c'est devenu un moment où il y avait un espoir, mais avec, par exemple, l'État, quand ils racontent Gezi, ils disent que ouais, c'était un coup d'État aussi, un acte de terrorisme.
Alors que c'était plutôt un mouvement d'espoir de la part d'une partie de la population qui, avec la Turquie qui venait de rentrer dans l'Union européenne, qui sans doute espérait du coup aller vers plus de liberté. Et en fin de compte, là actuellement, on voit un retour en arrière en Turquie. Ouais. Et alors parle-nous justement du récent coup d'État. Ouais. Qui a eu lieu.
De juillet, ouais. Donc, je n'étais pas là, en ce moment-là, en Turquie. Mais en fait, c'était quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Je pense que c'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'on voyait les hélicoptères ou les tanks de l'État qui tuaient le Parlement, les bâtiments de Parlement, tout ça. Donc, on se on s'attaquait nous-mêmes. Et c'était bizarre. Et depuis ça, je pense que c'est un nouveau chapitre dans le pays où on ne comprend rien. C'est un grand problème, mais je ne sais pas comment ça va finir.
Donc actuellement, il y a des journalistes, enfin, il y a des activistes qui sont emprisonnés, il y a des personnes qui disparaissent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être nous donner quelques exemples, et vers quoi ça peut aller? Donc, mm-hmm. On rappelle aussi que la Turquie a une frontière très poreuse avec la Syrie.
Ouais.
Et donc, c'est encore un autre problème.
Mais en fait, moi, avec la culture turque, je trouve que ce n'est pas très facile de comprendre pourquoi, en fait, on a peur des journalistes ou des écrivains. Pourquoi, en fait, comme un pays qui ne lit pas beaucoup, pourquoi les mots écrits sont un problème? Ça, je ne comprends jamais. Donc, avec les écrivains, par exemple, Aslı Erdoğan, qui écrivait pour un journal qui était, par comparaison, qui était beaucoup plus libre à dire ce qu'il veut, qui était pour les droits des Kurdes, par exemple. Mais pourquoi, si je suis pour les droits des Kurdes, comme je serais pour les femmes, les enfants, pour tous les isolés dans une façon, pour tous les gens qui ont besoin de notre aide, si je dis ça, pourquoi je dois être contre le régime? Ça, c'est un problème. C'est un problème de la langue, c'est un problème de la culture. Et donc, les écrivains payent pour ça, malheureusement, et les artistes aussi. Et c'est devenu un problème. On a beaucoup d'exemples de l'histoire. Par exemple, Nazım Hikmet, c'est un écrivain ancien de la Turquie qui était en Russie depuis des années, qui était exilé là-bas. Donc, on a ce problème depuis toujours. Et il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre du tout. Par exemple, il y avait un journaliste qui est assez connu, qui était emprisonné par le mouvement du Gulen pendant les procès de Ergenekon, tout ça. Donc, il y avait des procès contre l'armée, tout ça. Donc, il était emprisonné pendant ce moment-là. Mais c'est-à-dire, s'il était emprisonné, il était avec la gauche. Donc, après, il était libéré. Comme tous ces procès sont devenus pas vrais, parce que le mouvement du Gulen était donc l'ennemi de ce moment-ci. Et maintenant, ce journaliste qui était emprisonné par le mouvement de Gulen, aussi, il est emprisonné maintenant pour les droits des Kurdes. Donc, et on demande la même chose, on demande mais comment c'est possible. Donc, il était l'ennemi de Gulen, donc ça doit être, c'est pas un ennemi maintenant. Mmh. Avec la logique normale, c'est comme ça. Mais ils disent non, on trouve que ces mots sont trop dangereux. Alors, on va emprisonner.
Le gouvernement actuel turc peut être considéré comme un gouvernement totalitaire? Est-ce qu'on tend vers ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement à quel moment on peut dire que c'est un gouvernement totalitaire. Mais en même temps, comme j'ai peur que si en fait je pense que c'est un gouvernement totalitaire, j'ai peur de dire ça. Donc, comme j'ai peur de dire ça, c'est-à-dire que c'est un gouvernement totalitaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est difficile. C'est pas qu'on ne peut pas vivre comme on veut totalement. Mais est-ce que la guerre, c'est-à-dire que c'est la guerre totale ou c'est quelque chose où il y a chaque jour moins de la paix
liberté.
Et de la liberté. Donc, je ne sais pas. C'est le moment vraiment au milieu en ce moment en Turquie, et on a des choix, comme on a eu un choix l'année dernière, où avec les Kurdes par exemple, il y avait un moment de la paix, et je comprenais jamais en fait comment on a choisi la guerre mais pas la paix. C'était très facile, et les gens qui ont payé pour ça, c'est les gens quotidiens, les gens qui habitent là-bas, qui ont perdu leur maison parce que, soudainement, il y avait une guerre dans notre arrondissement, quoi, quartier. Donc, je sais jamais. Je pense que ça dépend sur les choix. Et avec ce qui se passe, en fait, en ce moment-ci, je vois qu'ils essayent de faire le régime veut qu'on vienne ensemble, qu'on ne se sépare pas. Mais ça peut être trop tard.
Tu as travaillé sur les printemps arabes, ça a fait l'objet d'un livre qui est sorti il y a un an. Printemps arabe, ça a été un mouvement avec une vague d'espoir incroyable. Et aujourd'hui, on voit un retour en arrière dramatique dans les pays qui ont vécu le printemps arabe. Déjà, quel est ton ressenti par rapport à ça, toi qui étais sur place, donc notamment en Égypte? Et après, je voudrais que tu me parles de ton travail photographique autour de ça.
Donc, en Égypte, un peu, c'était la même chose que Gezi. En fait, c'est pour ça que... Parce que j'étais en Égypte pour 2 années, on and off, chaque 2 mois, quoi. Et après, j'ai passé 6 mois. J'ai senti la même chose que je sentais en Égypte quand je suis retournée en Turquie. Mais en fait, c'est que des jeunes gens qui croient à la possibilité de vivre avec la liberté, d'être, de tomber amoureux, de créer, de penser librement. Donc c'est vraiment innocent quand ça commence. Mais malheureusement, je trouve plus en plus qu'il n'y a pas malheureusement une place pour des gens comme ça dans la politique. Les politiques sont purées un peu, purées. Donc, la première fois, c'était génial. C'était comme moi, je pensais que c'était vraiment le Paris de belle époque. Les années 30 avec les écrivains, les arts, tout ça, c'était très inspirant. Mais déjà, après ma première fois en Égypte, c'était changé. Et c'était quoi qui a changé? C'est l'impression des gens, la façon de vivre chaque jour, ce qui se passait dans la nuit. Par exemple, la première fois que j'étais en Égypte, même comme une femme, je pourrais prendre un taxi à 11h du soir. Et comme il fait chaud là-bas plusieurs mois dans une année, la vie commence beaucoup plus tard qu'en France, aux États-Unis. Donc on commencerait à 11h dans un jour, on peut être dans les rues jusqu'à 3h, 4h du matin. C'était pas très dangereux. Mais la deuxième fois, en fait, c'était mes amis qui me disaient, mais comme une femme, tu ne peux pas prendre des taxis, parce qu'on a commencé à entendre qu'il y avait cette façon de un peu faire peur aux femmes qui étaient dans les rues, parce que c'était aussi avec les manifs, et ils ne voulaient plus que les femmes soient dans les endroits publics. Donc, ça changeait. Et plus en plus, comme les rues changeaient, cet espoir, oui, ça vivait encore, mais dans les endroits privés. Entre des gens, entre des amis, entre tout ce que vous connaissez. Mais c'est devenu un peu emprisonné dans une façon. Et ça changeait. Et mon travail, moi, j'étais inspirée, mais aussi si curieuse qu'il y avait milliers de gens, quelque part dans le monde, qui voulaient vivre avec les principes comme moi. Totalement comme moi, que j'ai jamais rencontré, avec qui peut-être j'ai rien à partager. C'est-à-dire, j'étais éduquée aux États-Unis, moi je ne viens pas de l'Égypte, même je ne parle pas la même langue comme la langue maternelle, mais on a eu quelque chose, j'ai senti quelque chose, je n'ai pas su en fait c'était quoi. Mais j'ai voulu suivre ce sentiment et j'ai voulu voir si c'était en fait réel. Et c'était réel, j'ai trouvé. Mais comme c'est devenu beaucoup, beaucoup plus privé, et aussi c'est devenu un peu nostalgique, parce que vous voyez, nous, on changeait aussi, comme le temps changeait là-bas, on changeait aussi, bien sûr.
Ton travail, on pourrait penser que c'est du photojournalisme, mais ça ne l'est pas, parce que c'est une approche plus, j'ai envie de dire, impressionniste.
Ouais.
Pourquoi ce choix, et pourquoi aussi le fait de ne pas forcément dater, contextualiser ton travail? Bon, on comprend, par exemple, dans le livre qui est sorti chez une maison d'édition allemande qui s'appelle la maison d'édition.
Chara.
On comprend que tu parles du printemps arabe, mais après, on est face à la photo avec un sentiment brut, sans forcément plus d'explications que ça. Pourquoi tu as fait ce choix?
Moi, d'abord, je crois que si je dis Je dis ce que je veux dire avec une façon la plus simple, ce serait mieux. C'est-à-dire, moins d'informations, peut-être c'est ce qu'on a besoin pour vraiment transférer l'émotion, le sentiment du moment. J'aime aussi pour ce livre particulièrement, c'était comme un film noir, un film silencieux pour moi. C'était comme un film, mais sans des mots, sans des bruits. Et aussi, j'ai vu beaucoup de travaux, bien sûr. Il y avait beaucoup de journalistes, de photographes qui ont fait quelque chose sur le printemps arabe. Et je comprends ça comme c'est un moment historique. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que c'est un moment historique seulement, mais c'est un moment historique qui, en fait, influence la vie des gens de jour à jour. Et ça, c'est quelque chose, c'est une expérience totalement privée. C'est pas vraiment une histoire que vous allez regarder sur la télé. C'est pour ça que, en fait, j'ai fait le livre comme j'ai fait. C'est comme un journal personnel. Ça raconte l'histoire de l'Égypte en ce moment-là, mais ça raconte une histoire de l'Égypte en ce moment-là. Et c'est pas très important que c'est en Égypte. Ça pourrait être aux États-Unis. Ça pourrait être en Tunisie. Pour moi, bien sûr, c'était Égypte. C'était là-bas où je sentais quelque chose que je n'ai pas senti en Syrie ou en Libye. Mais c'est totalement subjectif, bien sûr, ce sentiment. Mais c'est juste une façon de comprendre l'histoire et comment ça influence des gens.
Donc là, quelle est ta dernière exposition?
J'ai exposé en Landilurium. C'était le dernier, à deux endroits, en Angleterre et en Autriche.
Donc un travail qui commence à être reconnu en Europe. Et quels sont tes futurs projets photographiques?
Photographiques, moi, en ce moment-ci, je suis totalement intéressée à la France à cause de ce que j'ai vécu là-bas, à cause des attentats pendant lesquels j'étais là-bas. Et je trouve qu'en fait... il y a quelque chose de très intéressant en France, pour le monde entier en fait, parce que je vois que c'est mon interprétation à l'heure, mais je vois que les principes originaux de la France, comme la liberté, l'égalité, tout ça, ça prend une nouvelle façade avec ce qui se passe. Par exemple, on doit demander mais pourquoi il y a des attentats, pourquoi la France est vraiment le target des extrémistes, pourquoi c'est en France. Et en même temps, on doit demander pourquoi, par exemple, il y avait des manifestations contre le mariage des gays, on dit LGBT. Pourquoi ça s'est passé en France, j'ai jamais compris. J'étais totalement étonnée qu'en fait, il y avait une grande population des jeunes aussi, qui étaient contre le mariage des gays. C'était bizarre. Mais en même temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui veulent vivre comme des gens que j'ai rencontrés en Égypte, comme moi, que je trouve une grande famille là-bas. Donc ça m'intéresse. Photographiquement, il y a quelque chose qui m'approche là-bas, je ne sais pas. Ça, c'est un projet. Une autre histoire que je vais raconter, c'est une histoire d'un jeune Afghan que j'ai rencontré à Calais, en France, qui est maintenant en Angleterre, heureusement, qui est un réfugié, qui était un mineur isolé pendant des mois. Et donc, ça m'intéresse aussi parce que je trouve un espoir que l'histoire des réfugiés ne sont pas... Ils ne sont pas que les gens vulnérables... Le pire de l'humanité, quoi. Il y a un espoir, il y a une vie après qui commence, bien sûr, avec des difficultés, mais peut-être aussi une vie normale.
À travers ton travail artistique, on sent une ligne conductrice, c'est de parler d'humanisme et d'espoir.
Ouais.
Et du coup, tu parlais aussi de l'idée de photographier un monde qui change, en fait.
Ouais. Oui, de temps en temps, parce que dans la photo, on voit des scènes peut-être violentes de temps en temps. Et comme, même si c'est un peu pas normal pour une photographe, mais moi, j'adore la nuit. Donc, beaucoup de photos que je fais, c'est pendant des nuits, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je travaille de l'espace négatif que positif, quoi. Et donc, de temps en temps, j'entends que je fais des photos déprimées un peu. Mais ce n'est pas un problème, oui, c'est vrai. Moi, je cherche l'espoir. Mais moi, je n'ai pas choisi de faire des photos déprimées. C'est la vie, le monde qui change, que j'ai trouvé. Moi, je trouve cette époque, ça a commencé depuis 2001, quand il y avait des attentats à New York. Et c'était juste après 2 semaines que je suis venue aux États-Unis. Et ça m'a changé. J'ai compris que quelque chose peut passer dans la vie qui peut changer les vies des gens comme nous, juste d'un jour à l'autre. Et moi, je connais ce sentiment très bien parce que c'est pour ça, c'est à cause de la guerre, ce qui s'est passé en Afghanistan, que ma famille a quitté, donc est venue en Turquie. Et donc, on ne peut jamais ignorer en fait que l'histoire peut influencer les gens quotidiens. Et ça m'intéresse. Comme je travaille dans une façon documentaire, oui, de temps en temps, les photos peuvent être déprimées, quoi. Mais c'est toujours, je pense que ça va améliorer, la situation va améliorer. Et quand je raconte une histoire de quelqu'un d'autre, c'est ma responsabilité d'être humaine, de leur donner un respect, un endroit d'être humaine aussi. C'est pas qu'un sujet, c'est une personne qui m'intéresse, donc ils sont déjà importants pour moi. J'essaie de commencer avec l'acceptance que moi aussi, je ne connais pas tout. Et moi aussi, quand je raconte une histoire, ce n'est pas une histoire totale. Mais voilà.
Mais une histoire sensible.
Sensible, j'essaie, oui. Mmh. Sensible. Ça doit être proche de, vers mon cœur. Et ça doit être authentique, on dit en anglais. Je ne sais pas si on peut dire en français. Ouais. Mais c'est-à-dire vraiment, personne n'est parfait. Donc, on ne peut pas raconter une histoire de totalement la guerre ou totalement la paix. Une personne géniale, même une personne géniale, a des fautes, c'est normal. Mmh. Et si on peut accepter ça, peut-être on peut commencer vraiment à travailler sur les problèmes d'améliorer notre vie, chacun à soi-même. Ça, c'est l'espoir.
un endroit, peut-être sur Internet, où on peut retrouver ton travail, découvrir ton travail.
Mon site. C'est, je peux dire en anglais, c'est www, mon nom entier, donc Emine Girls de Sevim, c'est un peu difficile, .com.
Merci beaucoup.
Merci pour m'avoir invité.
Et puis on espère découvrir ton travail prochainement en France. Donc,
on espère.
Voilà. Merci.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par l'association d'éducation aux médias, au monde numérique et à la libre expression Média Commun. Retrouvez tous les programmes radio pour l'UNESCO sur le site de la Fédération française pour l'UNESCO et sur la web radio du libre Ondes Courtes. Ondescourtes.fr, média libre, social et solidaire. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Radio pour l'UNESCO. Pour une culture de la paix.